Vous écoutez
RMC.
RMC. J'ai écouté Kevin De Bruyne en zone mixte.
Ah ouais, en mode vénère après le match, après l'élimination.
En mode vénère, il a repassé tout le monde pour l'hiver.
En tant que boulimique de foot, moi j'ai besoin, je vis foot, je vibre en foot, je pense qu'on m'ouvre les veines, il y a des ballons qui sortent.
20h-22h, Génération After.
Karine Galli.
Bonsoir à tous, bienvenue sur RMC. On est ensemble pendant deux heures juste après l'after foot avec Gilbert Bribois. Ce soir au casting, Elton Mokolo, bonsoir.
Bonsoir Karine, bonsoir à tous.
Et un homme qui ne ment pas. Effectivement, je pense que si on le découpe, vous voyez, si on fait une autopsie, il n'y a que des ballons qui sortent de son corps parce que il vit ballon, il mange ballon. C'est incroyable de le voir dans la rédaction. Le ballon, c'est son souffle, c'est son air, c'est sa vie. David, bonsoir.
Bonsoir Karine, quelle belle présentation, quel bel hommage. J'en suis ravi.
Non mais franchement, monsieur Busson, mais sidéré, vous êtes incroyable. Et en plus, vous êtes mais tellement passionné. Non mais parce que franchement, ce qu'il a dit là, il y a que du ballon en lui, c'est incroyable. Il est comme un gosse dans un marchand de bonbons.
Absolument.
C'est magnifique.
Absolument.
C'est bien résumé, ouais.
Donc, franchement, il y a quelques minutes, il nous parlait de Lille. Mais j'étais à deux doigts d'être passionné par la saison lilloise. Ouais. Tellement il te capte. C'est beau. Écoute, j'espère qu'il nous captera aussi à 22h, parce que le grand Gilbert Bribois vient de faire son entrée dans le studio et il va nous teaser les deux heures d'After Foot. Bonsoir Gilbert.
Salut à tous. Grosse page Mercato tout à l'heure avec Fabrice Hawkins, le faucon, qui est sur tous les dossiers et qui donc sera avec nous pour faire le point un peu sur tous les clubs, voilà les gros dossiers du moment, quoi. Ce qui reste à 48 heures de la Ligue 1, justement à 48 heures de la Ligue 1, on va parler de l'OM comme vous tout à l'heure. Kevin Diaz a un avis sur Bruno Genesio. Ah bon, c'est l'avis de l'été, hein. C'est pas non plus le truc de ouf. Hein. C'est
un peu comme le tube de l'été,
c'est la macarena. En gros, il aime bien Genesio. Quoi.
Ah oui. Il renverse pas la table là, avec cette avis.
C'est la lambada des avis. Quoi.
Voilà, ouais. C'est un peu ça. Et puis, qu'est-ce qu'on a encore au programme? Bah, ouais, quand même, cette histoire de PSG Rennes, là, faut qu'on rentre un peu dans les détails.
Ah oui.
On va faire du jardinage. Et puis, notre petit point quotidien sur les affaires de la Fédé et de la FIFA qui évoluent avec Philippe Diallo, qui semble un peu contesté là, en interne, dans le foot français. On fera le point sur tout ça tout à l'heure. Donc, deux heures d'after spécial Ligue 1 à 48 heures de la reprise.
Magnifique Gilbert, rendez-vous à 22h donc, Gilbert Bribois et toute sa bande et nous ensemble jusqu'à 22h pour Génération After, c'est parti. Messieurs, le programme du soir, évidemment, on va revenir sur le match entre le Fenerbahçe et Lyon. Vous l'avez vécu en intégralité hier soir sur RMC. Bon résultat ou gros regret, on vous pose la question, on vous attend également au 32-16. On va parler également de l'avis tranché de monsieur David Glusman qui concerne donc Lille, hein, je vous l'ai dit. Il nous a fait un peu une répétition dans la rédaction il y a quelques minutes. On parlera également de Francaise, parce que du côté de Rennes, alors on ne dit pas que c'est un loft, mais on resserre le groupe. Ça s'appelle un loft en fait. Les infos au mercato du jour et puis Gilbert en a parlé. Alors, vous avez soi-disant le meilleur jardinier du monde, il vous a coûté une tonne. Eh bien, qu'est-ce qui se passe, Mr Calderwood? Eh bien, il découvre qu'il y a eu une canicule cet été, donc il y a eu des champignons et que la pelouse est impraticable pour le PSG Rennes qui devait avoir lieu dimanche. Alors, c'est quand même assez lunaire et donc finalement le match est inversé et ça sera Rennes qui recevra donc les Parisiens. Il faut s'organiser et puis on vous dira également le podium des pelouses de la saison passée parce qu'on a été assez surpris. On a regardé ça avec Elton. Le PSG a le meilleur. Ben le PSG n'est pas numéro 1 et ça c'est une énorme surprise. Le PSG n'est même pas sur le podium. On en parle dans quelques minutes. On parlera également d'une nouvelle génération de 9 cette saison et puis quel est le promu le mieux armé. Alors vous savez qu'il y a Le Mans qui fait un petit peu rêver parce qu'il y a des gros noms notamment au niveau de l'Axe Yonaria. Il y a une très belle saison évidemment et puis il y a Troyes qui fait partie du City Group et qui a été sacré champion de Ligue 2. On en parle évidemment. On vous attend également en fin d'émission. C'est une libre antenne 32-16, WhatsApp 06-12-424-424 pour nous parler de la rentrée de votre club préféré parce que ce week-end, la Ligue 1 reprend. Messieurs, hier, il y avait un bon match de foot déjà entre le Fenerbahçe et Lyon. On rappelle, deux matchs pour retrouver la Ligue des Champions. Un step que les Lyonnais n'ont plus vécu depuis 2020. Au final, un score de parité, un but partout. Deux buts marqués par des recrues. D'un côté, on a eu Openda qui avait ouvert le score juste en première mi-temps avec un très joli but de la part du Belge à la 40e. Et puis juste après le retour des vestiaires, les Lyonnais pas très concentrés. Greenwood, magnifique, la spéciale, la recrue également, qui a égalisé à la 47e. Messieurs, on est un petit peu partagé. Alors, est-ce un bon résultat ou faut-il avoir des gros regrets avant le match retour mercredi?
Je dirais quand même bon résultat, parce que gros regret, ça voudrait dire que l'Olympique Lyonnais a eu plusieurs occasions de remporter ce match. Alors oui, c'était à l'extérieur et oui, t'as ouvert le score. Mais moi, je reste sur bon résultat qu'il faudra convertir sur match retour, parce que là, on est à la mi-temps de la double confrontation. J'ai pas envie d'être dans un optimisme démesuré quand on parle de l'Olympique Lyonnais, parce que sur les deux dernières années, ils m'ont appris à être modéré en termes d'analyse, parce que sur la logique de double confrontation, ils arrivent pas souvent à l'a terminé. Donc par rapport à ça, je te dirais davantage bon résultat, d'autant plus que là, Fenerbahçe n'est pas forcément la meilleure équipe à l'extérieur.
Alors, on rappelle quand même que Lyon n'a jamais été battu par le Fenerbahçe. On en est dorénavant à 6 matchs. Il y a 4 matchs nuls, 4 victoires de la part de Lyon et 2 matchs nuls en comptant le match de hier. Et que les Lyonnais, c'est vrai que globalement, ils nous ont fait plutôt forte impression. On les a sentis maîtres du match, maîtres du jeu.
Je pense que tactiquement, c'est une des meilleures partitions de Fonseca depuis très longtemps. Il y avait une application des consignes, une discipline dans le repli défensif, une discipline dans les sorties de balles, une opiniâtreté très rarement vue, une cohérence tout simplement très rarement vue sous Fonseca. Je pense que avec cette rencontre, il s'est complètement fait pardonner cette première rencontre complètement incohérente.
Alors c'est un pardon temporaire.
C'est un pardon temporaire, mais j'ai vraiment beaucoup aimé le contenu. J'ai pas envie de me laisser non plus transporter en parlant de regrets, parce que autant je pense qu'avant la confrontation contre le Fenerbahçe, on diabolisait en lisant, en égrenant les noms qui composent cet effectif du Fenerbahçe, autant là, moi, j'ai pas trouvé le Fenerbahçe si défaillant que ça hier. Je trouve qu'ils ont eu par exemple un très gros premier quart d'heure, en se procurant notamment une énorme occasion par Moriki, bien aidé par la sortie temporaire de Niakate. Je trouve qu'ils ont fait globalement une bonne deuxième mi-temps, et je suis pas forcément certain que leur Ismaël Kartal et leur entraîneur se trompera toutes les semaines de formation. Clairement, Talisca, hors poste, qui avait marqué 5 buts en 5 matchs, le décalé en numéro 10 sous Moureki, c'était pas forcément...
Ça, j'ai pas compris.
C'était pas forcément l'idée de l'année. Je pense que Dorgelès Néné a marqué énormément de points lors de son entrée. Ça a été un véritable...
Il a touché les montants.
Il a touché le montant. Donc voilà, rassuré par le résultat, pas forcément, parce que comme tu l'as dit, il y aura une maîtrise émotionnelle aussi à avoir. Mais dans le contenu, oui, franchement, très rassuré.
Le contenu, je suis un peu plus nuancé. La première période, j'ai vu une équipe appliquée. J'ai vu une équipe qui s'appuyait notamment sur ce qu'elle faisait depuis un an et demi sous Paulo Fonseca. À partir du 1 partout, il y a quand même eu moins de maîtrise au milieu de terrain. Sûrement qu'il y a eu une fatigue qui était assez avancée. Quand même, tu as eu des occasions, tu as tapé le poteau, Openda s'est mis en situation, tu as eu la frappe de Tolisso. Mais j'ai quand même encore une fois envie de rester positif sur la réalité du contenu et de la logique de rapport de force, parce que le rapport de force face à Fenerbahçe, il y a deux écoles qui s'affrontent. L'école qui est un peu plus structurée, celle de Fonseca, celle de Olympique Lyonnais, et l'école beaucoup plus d'initiative individuelle, beaucoup plus axée sur le talent, qui est celle de Fenerbahçe.
Mais moi, je trouve qu'ils ont bien réagi en fait à l'égalisation. Je te trouve un peu dur avec la deuxième mi-temps. Au contraire, j'avais peur qu'après avoir encaissé un but si tôt dans la deuxième mi-temps, ils perdent un peu les pédales, et je trouve que c'est peut-être la période après le but, c'est peut-être la meilleure période de la deuxième mi-temps de l'Olympique Lyonnais, où t'as notamment eu le poteau d'Openda, t'as eu plusieurs occasions, peut-être pas dangereuses, mais plusieurs situations. Je les ai trouvées justement dans la gestion émotionnelle de la rencontre, dans un contexte difficile, assez mature finalement en fait cette Olympique Lyonnais, là où j'aurais attendu beaucoup plus de maturité des adversaires.
Sur la gestion émotionnelle, oui, mais sur la maîtrise du ballon, sur cette capacité à avancer dans le coin adverse, à toucher tes ailiers, c'était c'était moins impactant en seconde période, que ce soit avec Fofana, que ce soit avec Nouama. Donc pour moi, c'est une marge de progression.
Un message de Mathieu, je suis d'accord avec lui, sur le WhatsApp RMC 06 12 424 424, qui dit: Fonseca ne pourrait être jugé que si Lyon passe au match retour, rassurant avant le retour. Mais restons nuancés, parce qu'effectivement, David, si sur le match retour, par exemple, Fonseca, il blinde la victoire 1-0, et finalement il y a l'égalisation et un mauvais scénario, ou s'il fait des surprises encore au niveau de la compo, là, pour l'instant, ce qu'il a fait, c'est bien, mais en fait, c'est juste normal. En fait, il a mis les joueurs à leur poste, il n'a pas fait de choix majeur lors du match aller, si ce n'est qu'on a vu qu'effectivement, Fofana, qui était peut-être partant, il était là en Turquie et il serait là aussi au match retour. Mais ça, c'est une question qui est globale, c'est-à-dire que c'est géré avec la direction en disant, écoute, ok, on met toutes les forces sur la pelouse et après on verra pour le mercato.
Je pense sincèrement que moi, sa piqûre de rappel, alors je peux me tromper, hein, parce qu'il m'a déjà surpris souvent négativement dans les grandes rencontres par le passé, mais je pense que sa piqûre de rappel, qui était finalement sans douleur et sans dommage au match aller contre le Sparta de Prague, a été bénéfique. Et je suis pas sûr qu'avec des enjeux, notamment financiers, aussi importants, il s'amuse à bricoler au match retour. Mais après, nous, on est là aussi pour juger la prestation d'hier. Moi, je l'ai trouvé très cohérent. Les Lyonnais très cohérents, très bien préparés aux forces adverses. Donc, on est obligé aussi de saluer quand le travail a été correctement fait.
Mais par exemple, je trouve que ce match nul et ce match qui est bon dans le contenu, je vois pas spécialement la patte Fonseca. C'est-à-dire qu'il a un changement qui a changé la physionomie du match. Il a fait du classique et ça a marché très bien. Je ne demande pas de faire des folies et d'avoir des idées dingues. Mais je veux dire, hier, finalement, ce qu'on a vu, c'est des joueurs qui étaient au niveau, qui ont été bons. Mais je veux dire, pour moi, c'est pas un match où tu dis, tiens, Fonseca, là, sur ce match-là, bravo à lui, c'est sa réussite, c'est son pas sa victoire,
mais Karine, pour moi c'est beaucoup plus par rapport à ce que fait
une bonne chose.
C'est beaucoup plus par rapport à ce que fait l'Olympique Lyonnais depuis janvier 2025 et l'arrivée de Fonseca. Moi j'ai vu un Lyon comme j'ai pu le voir sur d'autres grosses affiches, notamment sur une équipe appliquée qui avait la volonté de tenir le ballon principalement sur la première période. Et Fenerbahçe, hormis l'action de Mouriki et une autre action de Mason Greenwood en première période, il y a très peu de situations en faveur d'une équipe qui était censé arriver à domicile avec une équipe, une constellation de grands joueurs.
Et avec plus de rencontres de compétition aussi à son actif.
Et au final, le mérite, c'est que Greif, tu l'as très peu vu. Maintenant, c'est vrai que sur la seconde période, pour moi, c'était moins abouti. Mais après, je peux comprendre l'avis de l'auditeur, c'est qu'aujourd'hui, avec l'Olympique Lyonnais version Fonseca, on est vaccinés. Ils sont capables de faire un match aller qui est convaincant. Mais le match au retour à la maison avec 58 000 spectateurs qui t'attendent au tournant, ça c'est un peu plus compliqué parce que là on va pas se tromper. L'Olympique Lyonnais mercredi prochain, c'est le tournant de la saison, pas plus, pas moins, parce que là c'est t'as deux voies qui s'ouvrent, la voie Ligue des Champions, la voie Ligue Europa, avec des enseignements complètement différents.
Et au niveau financier, c'est pas la même chose.
Et aussi, même pas financier.
Pour évidemment l'engouement des supporters, on rappelle, ils ont plus la Ligue des Champions depuis 2020, donc ils espèrent un retour. T'as parlé de l'ambiance, franchement, les Lyonnais l'ont très bien géré hier, ouais. Alors que c'était incroyable. On entendait à peine parfois Edouard G et Corentin Roland en commentaire, tellement les Turcs faisaient du bruit. Et d'ailleurs, concernant le match retour, il y a un papier très intéressant d'Edouard G justement sur rmcsport.fr, je vous invite à y aller. Il y a près de 40 000 places qui ont déjà été vendues pour le match retour de mercredi, mais surtout, Lyon fait très attention pour que le scénario de 2017 face au Beşiktaş ne se reproduise pas. On rappelle qu'il y avait une majorité de supporters turcs dans le stade, ils s'étaient rués sur la billetterie et la billetterie du club avait été totalement débordée et en plus de ça, il y avait eu évidemment un chaos avec de nombreuses bagarres avant la rencontre. Jean-Michel Aulas s'était intervenu, etc. Donc là, Lyon essaye de tout bien faire pour que évidemment, Lyon joue réellement à domicile et qu'il y ait une majorité de supporters lyonnais et que la diaspora turque n'envahisse pas le stade pour un match ô combien important pour les deux clubs. Parce que du côté du Fener, on n'a plus joué la Ligue des Champions depuis 2009 et du côté de Lyon depuis 2020.
Mais tu sais que même financièrement, pour Fenerbahçe, Fenerbahçe publie annuellement des énormes pertes d'exploitation. Ils ont été sanctionnés par le gendarme financier de l'UEFA et donc c'est 50-60 millions de primes de participation à la nouvelle formule avec des champions. Je vais pas te dire qu'ils sont que ces 60 millions sont vitaux, mais ils sont aussi très importants pour le Fenerbahçe.
Antoine, supporter lyonnais au 32-16, est avec nous sur RMC. Bonsoir Antoine.
Salut, bonsoir à tous les
fans. Bonsoir Antoine.
Antoine, le match de hier, tu es satisfait? On va écouter d'ailleurs Openda dans quelques minutes. Est-ce que tu trouves que c'est un bon résultat ou tu es un peu frustré parce que tu avais l'impression que les Lyonnais maîtrisaient?
Non, honnêtement, je suis pas frustré. Je trouve que c'est un résultat. Alors, c'était cohérent. Je pense qu'on est tellement déçu entre guillemets de ce qu'a proposé Fenerbahçe, parce que quand on voit la compo et les noms, ça tend à prendre le feu de partout. En réalité, ça n'a pas été le cas, mais pour autant, ça reste une équipe qui, de par ses individualités, reste quand même dangereuse. Donc, on a simplement fait un match en maîtrise à l'extérieur avec des si. Enfin, on pourrait faire beaucoup de choses. Peut-être qu'en poussant un peu plus, on aurait pu prendre l'avantage, mais on a peut-être pu aussi s'exposer, perdre ce match-là. Donc pour moi, le résultat, il est complètement cohérent suite à un match cohérent. Après, au retour, on verra ce que ça donne. J'aime pas trop faire des pronostics. Je pense que ce sera bien avec le stade plein, etc. Mais Mais ça reste, même si on est déçu de faire un match, pour moi, c'est une équipe qui, bah, de par ses individualités, nous demandera de nous mettre.
Moi, c'est même pas les individualités qui m'ont déçu, c'est le collectif. Parce qu'au final, on dit oui, mais Fenerbahçe, l'effectif a été chamboulé. Mais si je me trompe pas, il y avait que trois nouveaux joueurs hier, en fait, qui ont débuté pour le Fenerbahçe. Ake, Muriqi et Greenwood. Ouais. C'est-à-dire que le reste de l'effectif, ouais, c'était un effectif qui était déjà présent l'année dernière. Donc moi, si la surprise, elle est vraiment là, dans le manque de repères collectifs.
Ouais, bien sûr.
Parce que le manque d'impact athlétique, bon, on pouvait plus ou moins le deviner. Ouais,
parce que là, par certains moments, le manque de pressing du
côté c'était incroyable.
Non, mais sincèrement, il y en a qui veulent plus courir. Il y en a qui veulent plus courir et ça facilitait le travail de l'Olympique Lyonnais sur la
ça a d'ailleurs profité à Tanner Tessman qui a fait une excellente rencontre hier et qui est vraiment favorisé quand il doit moins se sortir du pressing parce qu'il a pas forcément
Pour le coup, c'était pas le match de Prague à l'aller où il venait te chercher au milieu de terrain.
Messieurs, je vous propose d'écouter Openda. On le sait, depuis qu'il est arrivé, il est intéressant. Il n'avait pas encore marqué la recrue belge.
Eh
bien, c'est fait. Il est très bon. Il est bon. En tout cas, il pèse.
Il est très bon, carré.
Très bon.
Non, il est très, très bon.
Il est important et il pèse sur le jeu lyonnais et il fait beaucoup de bien. Très bon, c'est quoi ?
Karine, on fait le conseil de classe de l'Olympique lyonnais. Celui qui a les félicitations, celui qui est major du mois d'août, il s'appelle Openda.
Donc tu lui mets quoi ? 8 sur 10 ?
Je lui mets 8 sur 10.
D'accord. Antoine, est-ce que tu es objectif ? Pour toi, c'est très, très bon ou c'est des débuts réussis, intéressants, ils se font bien dans le collectif ? Comment tu les jugerais ?
Réussi, très bon. Et très bonne surprise, mais pas uniquement par son but par exemple, mais c'est vraiment son activité. Je pense vraiment que c'est un profil qu'on n'a pas eu à Lyon depuis longtemps en neuf.
Moi j'ai fait une référence à Lisandro Lopez 2010.
Ah ben quand même.
Alors, modère
quand même, non ?
On parle d'une.
Dans le profil.
Un passage forcément très long. Oui, bien sûr, mais.
Dans le profil, pas les accomplissements, il vient d'arriver évidemment quand même.
C'est le genre de joueur où je suis content parce que je me dis qu'en fait, même les matchs où il ne marquera pas. Il fera forcément du bien.
C'est
un joueur vraiment. Ouais, il apporte. Il est intelligent dans ses déplacements. Il est fin techniquement.
Bah, regarde à Prague. Toutes les situations dangereuses ou quasiment viennent
c'est
de lui.
Et moi, c'est lui qui obtient le péno.
Moi, au-delà de son but, ce qui m'a le plus impressionné, c'est l'action fin de corps quand il s'emmène le ballon pour sur sa frappe sur le poteau. Ouais. C'est-à-dire que j'avais oublié à quel point son jeu dos au but est efficient, à quel point il sait se servir de son corps et à quel point il est fort dans les petits espaces. Et ça m'a fait me demander, mais qu'est-ce qui est passé ? Comment il a été utilisé à la Juve avec la concurrence plus ou moins discutable qu'il y avait l'année dernière pour ne pas marquer du tout en 2026 et pour être aussi peu considéré ? Je comprends que le style de Spalletti ne soit pas forcément Openda compatible, mais quand même, on parle d'un joueur qui a complètement été mis de côté, alors que sur ces trois
points. C'est un contexte global, il arrive fin août, dernier jour du mercato, si je dis pas de bêtises, avec un autre entraîneur qui était Tudor. Ensuite, il y a Spalletti, il y a aussi la concurrence, tu devais mettre en avant les David, Vlahovic, etc., etc. Donc c'est un contexte global qui lui a pas suffi.
Tant mieux pour nous en tout cas, parce qu'on l'a récupéré en Ligue 1 et je vous propose donc justement de l'écouter. Loïs Openda, hier, était en zone mixte, au micro de Corentin Roland. On écoute le Belge.
On a fait un bon match, franchement, venir faire un match nul ici à Fenerbahçe, c'est pas facile du tout. On est venu le faire, je pense qu'on avait peut-être la possibilité d'aller chercher la victoire. Mais on va se contenter du match nul, qui est un très très bon résultat. C'est mieux ça que de perdre. Maintenant, on retourne à la maison, avec nos supporters, avec tout. Et voilà, maintenant c'est à nous de faire les choses correctement au match retour.
Loïs Openda qui dit « très bon résultat ».
Ça reste un match nul, il faut quand même pondérer.
Après, franchement, les voyants sont au vert. On rappelle les deux derniers clubs qui sont arrivés en phase de groupe de Ligue des Champions après des barrages. Lille, adversaire Fener. Et il y a quelques années, Monaco, adversaire Fenerbahçe. Donc, franchement, il y a...
Superstitieux, toi, tu crois, ces petits signes de dessin ?
Non, je suis pas superstitieuse dans la vie, mais ce sont des statistiques et évidentes. Là, les deux dernières fois.
C'est pour ça que moi je suis
très superstitieux. Moi, je suis très superstitieux.
Non, pas
t'es un vrai joueur de foot, toi. En fait.
Non, mais moi, je suis vraiment superstitieux.
C'est-à-dire.
Alors, je vais te raconter.
Donne-nous un exemple.
Je vais te raconter une dinguerie. C'est-à-dire que avant, je sortais au métro Notre-Dame-de-Lorette pour aller au boulot, et un jour, j'ai une.
Donc, attends, explique aux gens parce que tout le monde ne vit pas à Paris.
À Paris, à part le métro Notre-Dame-de-Lorette, à partir.
Oui, d'accord. Et le métro, c'est pas qu'à Paris.
Génération After est une émission mondiale.
Non, mais c'est ligne 9, non, c'est ça?
C'est ligne 9.
Exactement. Donc je sortais
ligne 9, ligne 12.
C'est le centre de Paris.
Je crois que c'est ligne 12.
Non, c'est ligne 12.
Le centre de Paris.
Donc, dans le centre de Paris, à deux pas de la rue des Martyrs. Donc,
non mais là c'est tellement parisien.
À deux pas de South Pigalle, comme on dit. Non mais donc je sortais, donc mes bureaux étaient, je finis mon histoire, j'essaie de la débuter. Mes bureaux étaient juste à côté et un jour j'ai eu une très bonne nouvelle professionnelle en sortant du métro et en empruntant une sortie de métro. Je n'ai plus jamais emprunté une autre sortie de métro. J'ai pris exactement la même porte, le même portique jusqu'à temps qu'on déménage de bureau. Et même quand j'y retourne pour des raisons personnelles, s'il y a des psychiatres, allez-y, diagnostiquez-moi. Il n'y a absolument aucun problème, des psychologues. Mais voilà, c'est à quel point je suis superstitieux.
Attends, il y a un escalator, donc tu le prends.
Non. En fait, tu veux la sortie. Ouais. Tu sais, il y a deux portes pour sortir.
Il préfère passer par les escaliers.
Mais est-ce que depuis, tu as eu d'autres bonnes nouvelles
hein, très bonne question d'Antoine.
J'ai pas une mauvaise nouvelle en tout cas, ça c'est sûr.
Ouais. Parce que dans l'autre sens, je pourrais le comprendre. Il y a une mauvaise nouvelle que tu apprends en sortant, tu dis je l'apprends plus. Ouais. Mais là, la proba, tu réagis.
Mais attends, Antoine, t'es en train de dire que je suis taré, c'est ça?
Non, je veux dire,
mais Antoine, dis-le, il y a aucun problème.
Non, mais c'est à quel point, je te dis, ça m'a tellement marqué que je me suis dit, écoute, je vais emprunter la même sortie parce qu'il m'est arrivé quelque chose de bien.
T'as emprunté la même sortie quand Gérard Lopez, il a quitté les Girondins de Bordeaux?
Non, mais par contre, je te jure que le jour où il va vraiment quitter, je reprends le métro Notre-Dame-de-Lorette et je prends cette sortie.
Magnifique. Écoute, on est ravis de cette petite anecdote.
Pas de souci.
Écoute, tu as le droit d'être superstitieux. Beaucoup de sportifs et de footballeurs sont superstitieux. En tout cas, c'était juste une information que je vous disais. Voilà, jamais 203, ça c'est un dicton. Et le Fener a plutôt réussi feux, à Lille et Monaco.
Sur tes feux, mon code de la route version foot, c'est feu orange pour moi. Pour l'instant, il y a un match nul. Match nul.
Non, mais c'est pas feu orange.
C'est un feu qui clignote en fait.
Non,
c'est un feu orange qui clignote.
Feu orange, tu dois t'arrêter.
Bah justement, pour l'instant, t'es dans l'attente.
Antoine, t'es peut-être pas moniteur auto-école, mais moi, je vois plus ça comme un feu orange qui clignote. Donc, ça veut dire que fais attention, mais tu peux passer quand même.
Oui, fais attention. Voilà. Fais attention, moi, je suis dans l'attente.
Pas tous en même temps. Antoine, on est feu vert là pour l'instant, on est quoi?
Non, on est feu. Après, comment donner un feu? Non, on est. Pour moi, je pense qu'on est légèrement favori parce que le contexte domicile, etc. Mais même si on est déçu de leur collectif, il y a des individualités. On l'a vu avec Greenwood. Greenwood, il fait un match.
Eh oui. On le voit pas du match avant son but.
Son but mauvais, est fabuleux. Match,
il perd des ballons un peu bizarres. Et il met un but extraordinaire.
Je crois qu'il touche entre son premier contrôle et sa frappe 6 ou 7 fois le ballon en un laps de temps ultra court. Son but est absolument fabuleux.
C'est sa spéciale.
La frappe.
Non, magnifique.
Moi, j'ai trouvé les gens durs avec Abner parce que certes, tu sais qu'il va repiquer, mais il le fait tellement bien et tellement rapidement avec tellement de touches de balle, tellement de variations.
Non, mais c'est comme Robben et Ribéry, tu savais toujours ce qu'ils faisaient et puis ça passait.
Exactement. Voilà. Oui.
Donc bon, il y a un moment, tu subis et tu dis bravo.
Ça, il vient de faire en plus, il fait la feinte juste avant. Devant ma télé, je me dis il va rentrer. Et au moment où il fait la feinte pour partir à droite, je me dis ah non, il rentre pas. Et en fait, il nous surprend.
Mais surtout qu'il a les deux pieds, donc il est capable. En fait, il est imprévisible. Il est capable.
Antoine, c'est très bien ton analyse, mais tu t'es toujours pas positionné.
Non, alors je comprends.
Priorité à droite.
Antoine.
Samuel m'a rappelé qu'évidemment, il peut pas dire feu vert. Les verts, ça passe pas à Lyon. C'est pour ça.
Voilà, donc feu orange. Merci beaucoup.
En plus.
Bon, Antoine, on te souhaite évidemment un beau match. Voilà. C'était ma question. Est-ce que tu seras au stade mercredi?
Ouais, je suis au stade. Et justement, je voulais finir par ça. J'espère que le stade sera plein, honnêtement.
Ah ben bah ça, il sera plein, oui.
Bah, attendons de voir parce que déjà les restrictions, parce qu'en fait, pour avoir accès à la billetterie, donc il y avait la billetterie abonnée dans un premier temps là qui est terminée. Maintenant, il faut la deuxième vague, c'est les gens qui ont un compte en fait sur la billetterie.
Oui, qui ont été le plus présent au stade depuis 3 ans.
Exactement, mais là, par exemple, j'y ai accès. Même si je l'avais eu via un ami abonné, mais bref, on s'en fout. Mais moi, ce qui m'inquiète un petit peu, pour être tout à fait franc, c'est que les places qui restent, elles sont pas données. Et j'ai peur que ça soit un frein. C'est étonnant qu'en fait, il reste des places, je trouve. Quand il y a un événement comme ça, la billetterie ouverte, et là, il reste quand même pas mal de blocs.
Peut-être des retours de vacances. Non, je pense que ouais, ça va se
comprendre. En tout cas, on rappelle qu'il y a déjà 40 000 places qui ont été vendues. Et comme j'ai expliqué juste avant, je sais pas si t'as entendu, mais en fait, Lyon fait très attention à la billetterie pour que, évidemment, il n'y ait pas la problématique de 2017 où il y ait plus de Turcs que de Lyonnais. Donc, en fait, c'est très encadré, mais ils pensent qu'ils seront à un guichet fermé avec des Lyonnais encouragés, avec des supporters lyonnais, etc. On suivra tout ça, évidemment, de près de toute façon. Et je vous invite à aller sur sur rmcsport.fr pour découvrir le papier d'Edouard G qui explique tout ça. En tout cas, régale-toi mercredi prochain.
Merci beaucoup.
Et si vous gagnez, utilise la même porte d'entrée en fait pour, ouais, pour le stade. Pensera à moi.
On fera ça, merci.
T'es vraiment un fondu. Hein. Mais bon, ça se comprend. T'es un sportif dans l'âme. T'aurais rêvé d'être qui? Alain Giresse, Zinedine Zidane, enfin, Christophe Dugarry.
Alain Giresse, je suis pas au bord de la retraite quand même. Tu vois.
Mais non, je prends un
bordelais.
Je prends une icône bordelaise.
Si j'avais non.
Il y en a quand même beaucoup des icônes bordelaises.
Si j'avais
Excusez-moi, j'ai commencé par Alain Giresse. Je pense pas faire un faux pas. Si Marius Trésor, enfin qui vous voulez, je sais pas. J'ai juste dit des bordelais quoi.
Si j'avais pu dire plus récent quoi.
Vous serez.
Bah oui, mais enfin des icônes bordelaises récentes, c'est qui?
Ah, il y en a eu.
Bon, ça dépend. Johan Barbet, Jean Griot. Non, c'est des joueurs qu'on jouait en fait, qu'on a descendu.
Non, mais je peux te dire Cheikh Diabaté si tu veux, mais enfin bon, je pensais plus à des illustres.
Non, et ben non. Alors si le joueur que j'ai le plus admiré esthétiquement, il est pas bordelais, c'est Dennis Bergkamp.
Non mais enfin écoute.
Non mais David.
Comment tu supporters d'Arsenal ou de Bordeaux?
Mais non, si on te fait un Hall of Fame de Bordeaux, c'est quoi?
Oh, Johan Gourcuff en tête, bien évidemment. Okay. Évidemment.
Voilà.
C'est pour moi c'est vraiment pour moi supporter récent.
Non, pas du tout. Pour moi c'est le joueur qui a de ce que j'ai vu et j'ai commencé à suivre les Girondins en 92 et donc c'est le joueur qui a atteint le niveau sportif le plus haut sous le maillot des Girondins. Beaucoup plus que Zidane, par exemple, même. À l'époque.
Non, mais d'accord. Tu prends pas de Champions de France 99, toi, tu prends 2009.
Bah, oui, non, mais c'est celui vraiment qui m'a transporté. En plus, à l'époque, je m'en souviens. Encore, ça va finir. Non, mais ça va finir, ça va être.
2009,
c'est un fréquent star, David Gluzman. Non, mais c'est incroyable.
Non, Balkan.
Non, mais alors, moi, j'habitais à New York à l'époque. Et
oh
je me
là
souviens.
Là.
Oh là là.
Oh le melon.
Mais c'est pas le melon, j'ai le droit d'être expatrié quand même.
Je prenais mon jet privé pour aller.
Non. Et tu regardais les matchs à quelle heure, du coup?
Je m'en regardais les matchs en plein milieu de l'après-midi, le week-end, et je prenais ma pause déjeuner décalée pour la Ligue des Champions, et je me souviens encore de l'émotion que j'avais quand je voyais les arabesques de Johan Gourcuff sur une petite télé dans un bar new-yorkais. Ça restera comme un des plus beaux moments
c'est
de ma
fort,
vie.
C'est fort.
Parce que c'est vrai qu'Antoine Lalion les a moins vus, les arabesques de Gourcuff, hein, par contre.
Bah, on les a vus, on les a éliminés en Ligue des Champions quand il. Je ne dis pas de bêtises.
Oui,
je ne dis pas de bêtises.
Je te parle de Gourcuff version lyonnaise.
Enfin, je dis quel enfer parce qu'en fait, c'était. Il jouait jamais, mais quand il jouait, on voyait tellement qu'il avait un truc en plus, même sur la fin. Honnêtement.
Tu sais quand il jouait dans le losange.
Oh, enfin, c'est un four qui vous a coûté combien? 26 millions, non?
24 à l'époque, c'était une dingue.
Ouais, 24 millions, c'est un four très cher.
Bah déjà en fait tu sais que ça allait pas fonctionner dès la présentation.
Ouais.
Parce que je crois qu'il fait la présentation avec Lloris et Toulalan, dîner chez Bocuse après.
Il est pas là dans sa tête.
Bon en tout cas Antoine, merci pour ce bon moment passé à tes côtés.
Merci à vous, c'était un régal.
Et toi juste dis-nous ton joueur préféré Hall of Fame de tous les temps à Lyon bien sûr. Me sors pas un mec qui joue à Lille parce que là je comprends plus rien. T'es supporter lyonnais, je veux un lyonnais hein.
À Lyon, je vais pas dire Vigneault pour l'évidence, mais justement, il a été cité tout à l'heure, Lisandro Lopez, c'était quelque chose. Hein. Moi,
Licha.
Ouais, j'avais 15 ans, un petit peu moins quand il arrive, et c'est extraordinaire. Le mec à qui on s'attache, c'est quelque chose. Hein. Même j'ai des maillots de lui, c'est le Barça.
Hall of Fame Barça.
Je vais pas demander.
Non mais moi non, c'est bon.
Parce que tu as été
on a un programme assez chargé.
Voilà, on a un problème très chargé. Non mais il veut présenter l'émission maintenant avec lui, c'est incroyable. Antoine, on t'embrasse, bon match la semaine prochaine et on te souhaite une belle saison avec Lyon et surtout évidemment une qualification en Ligue des Champions. On espère qu'on aura 4 clubs français en Ligue des Champions. Franchement, ça serait pas mal après le PSG, après Lille, après Lens évidemment et Lyon ce week-end commence son championnat face à Toulouse. Ça sera samedi soir à suivre bien évidemment sur RMC. Dans quelques instants, Francaise qui resserre son groupe. On va parler de Rennes, les infos Mercato évidemment. On parlera également du match entre Rennes et Paris. Normalement c'était Paris-Rennes, ça devient Rennes-Paris, mais il y a toujours des mais. Rennes dit bien que ce n'est pas une inversion. Sous-entendu, on veut que lors du match retour, ça soit encore Rennes. En tout cas, eux, ils disent que ce n'est pas une inversion. Donc, on vous expliquera tout ça précisément. Dans quelques instants, évidemment, Génération After continue sur RMC. À tout de suite.